Sur les atouts, les aspects de risque incendie modéré en bac en altitude, la bonne qualité de l'air, sous les conditions autorisantes, on n'a pas d'échelle de verra avec nous, sur les faiblesses, on a de nombreux risques sismiques, d'incendie, d'inondation, du terrain en général. On verra qu'en faiblesse, le territoire est assez sujet aux risques naturels.
À quel niveau ?
Il y a la mise en place d'un plan de prévention des risques. Donc, encore une fois, l'étude date de 2004, donc est-ce qu'ils ont été mis en place ? Est-ce que ça a été adopté ? Je ne sais pas, savoir où ça en est exactement aujourd'hui. Et puis en menace, la menace de l'absence de gestion de la forêt qui peut éventuellement augmenter les risques incendie. Et voilà, vous voyez que l'université est relativement partielle, il faut que ça s'aide. Est-ce que vous avez des éléments à apporter là sur...
C'est des histoires de Pyralène, de Transco, etc. Voilà, il provoque des réactions. Mais c'est il y a des sites Céveso, on les avait cités chez vous. C'était quatre installations. Mais là, ça devait être, c'était peut-être Mann, c'est Mann, je suppose. Quelqu'un qui avait noté ça, vraiment.
Il y a la Mesta au bec de l'Estéron.
Ce sera quelque chose, justement, il faudra typiquement ce genre d'information, c'est le genre d'information à chercher en sous-thématique. Situer les sites Céveso sur le territoire, c'est typiquement le genre de choses qu'un petit groupe pourrait faire en répartissant éventuellement les recherches effectuées. Globalement, les atouts, est-ce qu'il y a des atouts en général, c'est plus des aspects négatifs qu'on relève dans ce genre de thématique. Est-ce qu'il y a des atouts en matière de risque naturel de pollution ou de nuisance? Sur les faiblesses, est-ce qu'on a vu?
Non, il y a pratiquement pas de moteurs.
Oui, dans la mesure où on a établi un périmètre qui exclut les zones du plan de grâce.
C'est comme ça que ça a été
décrit. Peut-être c'est marqué, mais tu vois, c'est.
Non, parce qu'en fait, j'ai mis trois petits points, parce qu'on n'avait pas d'éléments dessus. Donc c'est pollution, trois petits points. Est-ce qu'il y a quelque chose de nuisance, trois petits points, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est, est-ce qu'il y a des atouts en termes de pollution? Par exemple, l'atout, il y a une bonne qualité de l'air, il y a peu de... de pollution atmosphérique sur le territoire, ça peut être un point de
je pense que ce qu'on peut classer dans les atouts, c'est que le territoire dans la partie centrale du parc est une zone naturelle. Et il y a quelques années, on m'avait expliqué qu'on ressentait les effets de la pollution de Nice jusque dans le Mercantour. Donc, ce que j'appelle atout, c'est avoir à un instant donné une faune, une flore, et par l'observation, on va pouvoir déterminer si il y a influence de la partie littorale qui est fortement polluante au niveau de l'air. Et il ne va pas y avoir à un moment donné un signal d'alarme qui va permettre d'agir, de pousser les acteurs à agir de manière plus draconienne sur la partie pollution. C'est quelqu'un d'un organisme officiel qui m'avait expliqué que l'ozone produit sur Nice avait un impact jusque sur les arbres et les mercantours.
C'est un indicateur
de la pollution de l'aval.
Mais moi, je peux vous dire qu'on a des remontées. Alors, on n'est pas dans le Mercantour, on n'a pas de zone centrale, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire de confusion avec un parc national. Mais on a effectivement des remontées par les grandes vallées, type vallée du Loup, etc., qui sont effectivement des couloirs pour, à certains moments, faire monter le pic de l'ozone, par exemple. Si on avait les moyens de vérifier la qualité de l'air plus souvent, on s'apercevrait effectivement, malheureusement, que par ces cheminements naturels et en fonction de l'orientation des vents, on a ce type de remontée.
Parfois plus pompé que sur la côte.
C'est vrai.
Ça pourrait être intéressant de faire une cartographie de la qualité de l'air.
Donc il y a une menace de pollution en provenance du littoral, ou est-ce que c'est déjà validé ça qui est...
Il y a déjà des pollutions. Ce n'est pas parce qu'on est loin de la ville qu'on a moins de pollution, effectivement, parce que l'ozone, dans lequel je ne suis pas spécialiste, mais je sais que la couche d'ozone nous protège et elle protège moins l'arrière-pays parce que de la pollution que l'en bas. Alors, il y a des études, parce qu'on dit on pourrait en faire, mais il y a quand même déjà pas mal d'études. Après, on ne veut pas forcément tout divulguer, et puis il y a des études qui sont faites pour les végétaux et qu'on n'applique pas aux humains. Enfin, donc, à voir.
Un gros placard remplacé qualitaire, avant, on avait des graphiques, on avait accès à leurs publications. Maintenant, on continue à payer un abonnement, mais on ne sort plus rien. Et même sur leur site internet, on n'a pas grand-chose comme résultat. Alors qu'avant, c'était plus clair.
Il y a eu un colloque l'autre fois sur l'ozone à Valarousse, je n'ai pas pu y aller.
Sur le point fort qu'on avait mis initialement une bonne qualité de l'air, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est quelque chose qui sera étudié. En fait, on ne sait pas vraiment.
C'est pas à qui.
Non, mais c'est vrai que des mesures ont été faites. C'est vrai que moi, j'ai connu les résultats de ces analyses, mais ce n'est pas très divulgué quand même. Et par contre, c'est vrai aussi que c'est très fortement lié à l'orientation des vents. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas celui qui dirait qu'on est constamment exonéré de problèmes de pollution de l'air à partir de ce qui est la pollution du bas, c'est faux. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Il y a des moments où on a effectivement des problèmes de pollution.
D'autant plus qu'il y a une migration citadine du week-end de plus en plus importante. Hein. Il y a 20 ans, il n'y avait personne dans la montagne. Aujourd'hui, ce sont des bouchons sur les petites routes de montagne, les samedis matins et les dimanches soirs. Donc c'est obligatoire.
Dans les pollutions, sonores liées aux régions qui s'intensifient, entre deux avions qui passent pas très loin, finalement, pour être assez en altitude, il y a bien souvent moins de 5 minutes.
Avion, hélicoptère, moto.
Effectivement, il y en a beaucoup. Mais il y en a de plus en plus, effectivement. Mais les avions sur Nice.
Moto, ULM aussi.
C'est
On peut peut-être faire passer un petit peu plus haut.
Non, mais on peut les marquer en menace.
Hein,
en nuisance sonore.
Au moins les identifier. Parce qu'en nuisance sonore, c'est costaud.
J'ai
même vu, mais ça.
Dans la Tchernobyl, c'est un problème qui est de plus en plus mis en évidence, le problème des motos, quads dans les milieux naturels.
Oui, mais c'est dans une autre commission.
Parce qu'on parle du bruit et les hélicoptères.
Ici, on peut le mettre aussi dans les autres dans un bruit, quoi.
Par rapport aux autres thématiques. Parce que j'allais rebondir sur.
C'est une nuisance sonore, oui.
C'est parce qu'il y a de plus en plus d'activités de loisirs dans ces milieux arrière-pays. On disait qu'il y a plus de gens qui montent. Et il y a aussi de plus en plus d'activités hélicoptères qui sont proposées. À Bar-sur-Loup, récemment, il y a eu une journée avec des tournées payantes hélicoptères au-dessus du village. Il y a deux semaines, il y a eu la même chose à Gréolière et Neige. Moi, j'y étais, c'était toute la journée un défilé d'hélicoptères sur un périmètre de 20 km. Et pour répondre à une demande de tourisme, il y a de plus en plus de types d'activités. Peut-être à gérer,
c'est une menace.
Il y a de thématiques sur lesquelles un parc doit être
positionné. Et il y en a de plus en plus.
Ouais, je suis en train de chercher l'endroit où on avait dit qu'effectivement il faudrait canaliser ce type d'activité.
C'était dans le tourisme, c'était
Il y a des projets de ULM dans le site du parc, je crois.
Ah voilà. Dans la commission et dans la,
je sais pas, il cherche un endroit.
Sport et loisirs pratiques traditionnelles, il est prévu en point 4, la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature, y compris
autorisées. Il y en a un qui voulait être à la peine, mais ça t'est refusé.
afin de partager l'espace et de trouver le juste équilibre entre le bien plus grand public et la préservation des espaces et des espaces naturels sensibles.
C'est qui va l'atterrir, les collines?
Bah là dans le champ juste en dessous. Il y en a un qui a atterrissé là-bas.
Là, il le ferait là?
Pour lister de façon assez. Bah, je sais pas si.
Nous, on avait plutôt identifié le principe de la dégradation du sol. On avait quand même beaucoup ciblé les quads dans la réflexion.
L'hélicoptère, je pense que ça va monter en puissance aussi. La moto, c'est sûr. La moto,
quel type d'activité, ces activités amateurs, c'est des hélicoptères?
Bah là, on a des hélicoptères, c'est professionnel. Je crois que c'est 60 euros la journée.
Des baptêmes,
oui, des baptêmes, on a eu deux week-ends d'affilée cet hiver, mais c'est une activité qui n'était pas avant.
Non, mais ça fait deux ans qu'elle existe, sur l'eau et une à l'éolien. À Cipierre, tous les étés, tous les samedis, il y a des rondes d'hélicoptères, mais depuis deux ans.
À la peine aussi, à baptême de l'air, hélicoptère et.
Mais c'est les drones de Cannes, ils baladent les touristes.
Non, mais je pense que c'est une sensibilisation des maires qui sont responsables de ce genre d'animation. Effectivement, puisque le maire peut l'interdire. Enfin, en tous les cas, il est sollicité pour fournir l'autorisation de survol de la commune au titre d'une opération baptême de l'air, une foire ou de je ne sais quelle activité artisanale qui a été instaurée. Et donc, s'il est sensibilisé par le principe de la charte, il devrait effectivement faire la part des choses. Et puis, en tous les cas, si c'est deux week-ends d'affilée, ça semble effectivement une périodicité un peu forte, quand même.
Oui, mais c'est deux week-ends, une fois dans l'année.
Oui, mais justement, tout le monde étant membre, Barcelou et Grelier étant membre de la charte, à ce moment-là, il peut y avoir une consultation
sur
le territoire du Jean-Marc.
Il n'y en a pas beaucoup,
non. On va laisser faire ceux qui font des baptêmes, ça fait bon gens, c'est plus démocrate, ça fait bon gens, c'est bon gens, c'est bon gens.
Ah oui, non, mais on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, des touristes quand c'est bien, etc. Hein.
C'est pour ça qu'il faut quand même cibler les nuisances que crée le tourisme, parce qu'il en crée forcément, hein, pour pouvoir après décider de gérer le possible et de dire ça s'accepte à tel endroit, pas à tel autre.
C'est ça.
Mais il faut bien cibler ces nuisances.
Mais parfois, c'est pas forcément, ça aboutit pas forcément à une limitation, mais c'est possible une condition d'exercice différente.
On nous a dit, voilà, on était parti, quand on a dit activité de pleine nature, les personnes qui étaient autour de la table, pour eux, c'était surtout le canyoning. Ah, c'est après qu'on a en développant le truc, mais au départ, on est parti sur le canyoning.
On se bat quand même très très régulièrement pour des 4x4 ou des motos qui viennent en milieu naturel, dans des zones Natura 2000. On est obligé de les arrêter et de leur demander de faire demi-tour, sans arrêt, tous les week-ends.
Il y a une réglementation, on essaie de faire appliquer.
Cela dit, je dirais qu'à la limite, on n'a pas besoin du PNR, il y a la loi montagne qui existe et qui a déjà...
Est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce moment-là, suggérer des emplois d'éco-gardes?
On a parlé ce matin.
Oui, mais les éco-gardes, on n'est pas coercitif dans le PNR, on n'a pas ce moyen-là.
Mais les éco-gardes peuvent
faire que de la pénévole.
Comme
les gardes des
parcs. Peuvent être assermentés, mais dans des conditions très particulières, uniquement si c'est en
réserve. Oui, mais ne serait-ce que dans la prévention sans être assermenté, puisque de toute façon.
Réservation, information, pédagogie, absolument. Mais ils n'ont pas la capacité à dresser un procès verbal.
Encore une fois, on regarde les moyens que ça prend. Il faut vraiment, c'est comme pour les égards, enterrements il faut vraiment qu'il y ait des enjeux forts. C'est tout à fait possible dans les clubs d'éco-garde. Après, il faut que ça réponde à des enjeux forts. Là, effectivement, l'enjeu de gestion des usages des espaces de pleine nature est un enjeu qui ressort beaucoup. Donc, on verra avec ce que ressort des autres commissions, mais effectivement, c'est une possibilité.
C'est un retour par rapport à Natura 2000 aussi, où il y a une animation de gestion qui est mise en place depuis des années. Et ça ressort comme l'enjeu fort, la maîtrise des activités de pleine nature.
D'accord. Ouais, même si la maîtrise. L'argument principal des gens qui viennent en moto ou en quad, c'est vous êtes d'accord, on est bien d'accord qu'il faut protéger la nature, mais où est-ce qu'on va en faire? Alors maîtriser, c'est peut-être aussi proposer quelque chose d'autre.
Pour canaliser tous ces gens, parce qu'il y a
pas de solution.
Mais le parc, en fait, a la compétence, une des seules compétences qu'il a, c'est pour mettre en place un schéma de gestion des activités motorisées.
Mais il a un rôle aussi de médiation.
Le problème, en fait, c'est que c'est très difficile à mettre en place. En général, l'approche des parcs, ça va plutôt être limitative, c'est-à-dire on applique l'interdiction des activités motorisées sur les sites protégés, sur les zones protégées. On se cible là-dessus parce qu'on n'a pas les moyens de faire un schéma, de le faire appliquer, parce que voilà, tout simplement, c'est un manque de moyens.
Un partenariat
avec le collège en quoi
au-dessus,
au chemin
départemental.
Ah oui, c'est bon.
Sur tout ce qui est cadastré, c'est autorisé.
Est-ce qu'il ne serait pas possible aussi d'organiser des réunions entre justement pratiquants touristiques, touristes qui ne respectent rien et habitants du territoire, et puis essayer avec le parc d'être en médiation, essayer d'avancer ensemble, quoi, parce que c'est vrai qu'on est toujours, nous, avec les motos, c'est pareil.
Généralement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce genre d'activité s'est encadré. Alors, soit par des clubs, soit par des clubs, soit par des commerçants qui font justement commerce d'articles d'équipement pour les quads ou de vente de quads. C'est-à-dire que c'est eux qui font les propositions d'organisation
pour ce qui est des quads,
voilà, de déplacement, etc. Donc il y a là effectivement des interlocuteurs qui sont eux responsables, ils en font une activité rémunérée. Mmh. Et de l'autre côté, effectivement, il y aura les responsables du parc, les associations du parc, et pourquoi pas les éco-gardes, hein, mais on va pas mettre les habitants en confrontation avec les pratiquants. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça évolue. Les pratiquants sont encadrés dans une organisation plus ou moins officielle. Par contre, j'aime autant vous dire, vous devez en savoir quelque chose, ils sont fort bien documentés sur tout ce qui est réglementation, etc. Moi, j'en parlais avec Loïc Agosti, qui est très sensibilisé, qui est le garde qui s'occupe de la commune de Serranon et des communes alentour. Et donc, il a eu à aller devant la justice, hein, puisque c'est sanctionnable par le procureur. Et l'amende, ça monte jusqu'à 1500 euros. Mais c'est vrai, hein, ils répondent généralement qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire, et que de toute façon ils sont passionnés et qu'ils sont prêts à payer ce genre d'infraction pour assouvir leur plaisir, d'une part. Et d'autre part, ils ont une structure qui s'appelle Code Vert.
C'est ça.
Qui est un support juridique.
Ouais, j'ai eu des confrontations déjà ce matin, juste ce matin, et je viens d'apprendre ça. Ouais.
Voilà, et qui leur permettent effectivement d'avoir des réponses et des parades très subtiles, du type on prend des photos, machin, etc., et on met en porte-à-faux les agents ONF qui sont chargés de les organiser. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut pas mettre les habitants qui seront très motivés et qui n'auront peut-être pas les bons arguments, en relation directe avec les pratiques de réforme. Faire attention.
Également, déjà,
bonne chevrotine, c'est bon.
Jamais protégé au niveau
de la loi par...
Faites tomber quelqu'un, il se blesse, et vous êtes coupable, même s'il n'a pas été appelé.
Vous avez menacé de demander à cette commission l'approbation de déclarer comme menace, on verra, on peut en débattre, la pollution lumineuse. Bon, je vais faire un petit résumé. On a la chance, je pense que c'est une chance dans notre PNR d'avoir un observatoire astronomique, l'Observatoire de la Côte d'Azur, un des derniers en France où on fait d'astronomie professionnelle. Et on a un département très très riche de clubs amateurs, Nice, Grasse, Antibes, Cannes, etc., des astronomes amateurs qui utilisent, si je puis dire, l'arrière-pays pour faire leur passion. Or, on est de plus en plus condamnés, les amateurs, les professionnels, par la pollution lumineuse. Là, c'est-à-dire, dès qu'il se fait un rond-point, nos élus mettent des lampadaires. Dès qu'il y a un nouveau magasin, quelque chose, on met des lampadaires qui illuminent le ciel. Si bien que bientôt, dans quelques temps, le ciel, on ne pourra plus l'exploiter. Aussi bien pour nous, parce que le ciel, ça fait, à mon avis, ça fait aussi partie de notre environnement. Quand on était jeune, hein, les anciens, on se souvient, on sortait dehors, on voyait tout de suite la Voie lactée. J'estime que si on pouvait intégrer ça dans l'environnement vraiment, comme tout à l'heure la spéléologue disait, notre sous-sol c'est aussi notre environnement, il faudrait, est-ce qu'on ne peut pas décréter que le ciel aussi, c'est notre environnement, l'environnement qui parle, qui a cette spécificité.
Le ciel a ce problème, il y a le problème énergétique. Or, on s'aperçoit que les communes sont passées au travers complètement du problème, parce que là, je vois à Saint-Vallier, vous êtes de Saint-Vallier, je suis de Saint-Vallier, Saint-Vallier a installé des lampadaires qui éblouissent le conducteur, qui éclairent les champs, et ça, ce n'est pas aller contre l'éclairage du domaine public, c'est aller contre la mauvaise utilisation de la technologie, c'est-à-dire que les lampadaires sont inadaptés, et en fait, il y a un gros effort à faire de ce côté-là pour n'utiliser que la quantité d'énergie nécessaire pour éclairer les lieux publics. Donc il y a un impact pollution lumineuse et un impact énergétique. Et je pense que là, c'est même au niveau national. Donc le parc devrait peut-être pouvoir. Mais là, le drame, c'est que des communes comme Saint-Vallier se sont équipées de lampadaires neufs qui sont une catastrophe énergétique et environnementale du point de vue pollution lumineuse. Alors, comment agir? Je pense qu'il faudrait inclure là-dedans les fabricants pour obliger les fabricants à installer des systèmes d'éclairage qui soient... qui est...
Non, mais on fait aujourd'hui des éclairages publics avec des LED.
La source de l'énergie par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire éclairer au sol les piétons pour les voitures et pour une sécurisation, si c'est le cas. Et deuxièmement, j'avais suggéré, comme ça se fait, de gérer intelligemment le temps d'éclairage.
Il y a évidemment un projecteur sur deux, mais il faut que ce soit capté au départ.
Non, mais on peut constater très facilement que, allez, on va dire, de minuit et demi à 6 heures du matin, il y a quand même peu de gens.
Personne ne sait rien dire.
Même si c'est quand même une grande ville par rapport à nos petites communes. Et que dans ces conditions-là, on pouvait éteindre l'éclairage public carrément.
Et là, ça rejoint l'enjeu énergétique.
Et ensuite, on fait des économies.
Mais typiquement, c'est le genre de jeu qui propose en fait de thématiques. Effectivement, c'est un moment intéressant de faire une
autre. Mais plutôt que d'en discuter, vous avez dit qu'il y avait un comité scientifique. Ce comité scientifique, on pourrait lui demander, sur cette option-là, de créer une norme, de proposer une norme, justement, des éclairages. Plutôt que. Ça pourrait être une bonne solution.
Bien sûr.
Là, il suffit d'un peu de bon sens.
Le bon sens.
Alors, c'est intéressant sous différents aspects. Il y a bien évidemment l'activité humaine, parce que l'astronomie, c'est aussi une activité humaine. C'est culturel, c'est des relations avec le milieu scientifique international. C'est très, très enrichissant, à mon avis, pour un PNR. Puis il y a aussi, évidemment, au niveau environnement. Parce que tous les nocturnes, tous les animaux et certaines plantes nocturnes sont perturbées et sont parfois décimées par ces lumières. Tout le monde connaît l'exemple des oiseaux migrateurs qui, attirés par une pollution lumineuse trop intense au sol, se dirigent vers elles et puis si on pouvait avoir défini une haute qualité de préservation de la nuit noire, ce serait super. Ce serait un enjeu, comme disait votre collègue, ambitieux. Je sais pas quand
les économies d'énergie vont peut-être vous obliger à agir dans ce sens-là.
On va être tenu à un moment donné, de toute façon, d'y aller. Hein, mais autant.
Oui, madame.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un des atouts du territoire, c'est d'avoir une faible population par rapport au reste du département?
Faible population?
Oui, parce que...
On l'a dit dans une autre émission que... C'était un des atouts d'être avec une démographie pour l'instant faible.
En fait, depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a beaucoup de nuisances, mais il y en a pas mal qui viennent de l'extérieur. Donc, un atout de premier. Non, j'ai pas dit ça, hein. C'est juste que ça.
C'est un
atout général. Quoi.
Dans les faiblesses, est-ce qu'on reprend ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur l'eau et l'assainissement? C'est-à-dire qu'il y a, j'ai noté deux pollutions majeures, une pollution due au milieu karstique, hein, donc une infiltration très rapide dans les eaux souterraines, et une autre pollution qui est due au mitage, notamment au mitage de l'habitation et à l'assainissement individuel, qui pollue énormément aussi le milieu naturel. Est-ce qu'on les rajoute ici également pour bien les cibler, ces deux faiblesses?
Dans la thématique de l'eau, on va traiter les pollutions.
D'accord, il y a par exemple en tant que telle comme pollution.
Je ne sais pas si c'est ça quelque chose de remettre là. Là, c'est plutôt autre pollution au final. Je sais pas, on peut le rappeler, mais comme il y a une.
Je ne sais pas, comme ça s'appelle pollution et nuisance, je ne sais pas ce qu'on y met là en fait.
En tous les cas, M. Paris, dans la commission 3, dans la rubrique animation, vie culturelle et vie associative, dans les atouts, il est dit, il est écrit. Une activité astronomique significative.
Super.
Donc il faut bosser.
Vous êtes significatif.
C'est juste pour revenir à l'enjeu là sur l'astronomie, le ciel nocturne et la pollution lumineuse, est-ce qu'on inscrit du coup en enjeu global, parce que là pour l'instant on l'inscrit dans le diagnostic, mais est-ce qu'on en fait un enjeu, cet enjeu de.
Oui.
Il y a une double.
Il y a une association nationale, l'association pour la protection et la défense du ciel nocturne et de son environnement, et de l'environnement nocturne.
Donc ça serait un enjeu de préservation du ciel nocturne.
On pourrait converger vers ces critères.
Ça va pas en pollution lumineuse.
Oui, en pollution lumineuse. Ça fait en même temps des économies d'énergie. Etc.
Oui, oui. Quand est-ce qu'on fait la teuf? Quand est-ce qu'on fait la teuf?
Sur le diagnostic, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être apportés là en. On reste au niveau général
sur les menaces.
Il nous reste 5 minutes à penser.
Sur les menaces, la forêt non gérée.
Il a dit que c'était fini. Normalement, c'est fini.
Oui, parce qu'on peut savoir, dans cette région, il y a plusieurs statuts aux forêts. Il y a des forêts publiques et il y a des forêts privées. Les forêts publiques, au moins, celles-ci, elles sont gérées. Alors après, on peut discuter si elles sont bien gérées ou mal gérées. Assez gérées ou pas assez, mais en tout cas, elles sont gérées.
Ouais, l'absence de gestion, c'est un peu radical.
Ah oui, je veux dire ça, parce que
carence en matière de gestion.
Non, parce qu'il existe quand même le CRPF, la coopérative, et le syndicat des propriétaires. Si on leur dit qu'ils n'existent pas, ça ne va pas leur faire plaisir. La présidente du syndicat est au sol.
Il a été confirmé
qu'il y a une mauvaise. Mais c'est surtout la forêt privée, peut-être, non ?
Même les forêts publiques, mais le problème, c'est qu'elles ne rapportent pas, donc on n'a pas d'argent.
Mauvaise gestion améliorée.
On va approfondir sur cette thématique pour vraiment mesurer dans quelle mesure il y a des carences en matière de gestion.
Il n'y a qu'à mettre améliorer.
Bah oui, c'est tout. Hein.
Améliorer.
Il faut vous dire que la forêt ne rapporte pas grand-chose. Donc, plus dans les communes un peu plus hautes.
Non, mais c'est vrai, monsieur.
Mais à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement, c'est difficile pour un propriétaire qui a une parcelle avec des arbres. Surtout maintenant, il y a pas mal de pins maritimes qui meurent. Et puis des anciennes terrasses qui sont abandonnées, donc recolonisées par la garrigue, parce que c'est ça qu'on appelle forêt, souvent par ici. Donc c'est pas facile pour un particulier d'aller nettoyer le terrain pour le bien public. Hein. C'est évident. C'est pour ça qu'il y a les 50 mètres obligatoires autour des maisons, même chez le voisin, qu'on expliquera après. Parce que c'est le propriétaire du bien qui doit protéger son bien, même s'il doit aller débroussailler chez quelqu'un d'autre. Enfin, ça, c'est dans les détails.
Donc, la formulation difficulté de gestion, je pense que c'est plus approprié.
Et aussi, par rapport à ce que dit monsieur, à cause de ce problème-là, on a des fermetures de chemins de randonnée. Par exemple, à Saint-Genis, il y a des anciens qui m'avaient dit qu'avant, on pouvait aller du Baou jusqu'au village de Saint-Germain dans des sentiers et tout. Et maintenant, c'est tous toutes des propriétés privées et c'est fermé et c'est inaccessible. Je suppose que ça va être pareil. Alors,
ça dépend si on est dans la propriété privée. Enfin bon.
Il y a des sentiers de randonnée quand même.
Cela dit, je voulais quand même signaler que dans la préparation de cette réunion, il y avait un représentant de l'ONF qui n'avait pas tout à fait la même vision que nous et qui parlait de dogmatisme en ce qui concerne les risques d'enfrichement, notamment sur les terrasses, etc., qu'il ne fallait pas stigmatiser à ce point-là, qu'il fallait laisser la forêt, etc.
Non, mais je ne dis pas le contraire, hein. Je dis là, c'est
important. Non, mais sur les risques. J'étais hein, pas d'accord avec lui, hein, moi.
Ah ouais, ouais, d'accord.
J'étais pas d'accord avec lui parce que je pense que les terrasses, elles n'ont jamais été enfrichées, elles ont été créées parce qu'elles étaient à l'époque cultivées, y compris dans les petites communes, ou par exemple sur la commune de Serranon. C'était utilisé pour faire la culture des lentilles. Donc aujourd'hui, d'y voir des pins, moi ça me désole. Et je préfère, pour finir, y voir passer des moutons, même si quelquefois ils abîment un peu le percage des restants, plutôt que d'y voir des pins. Voilà, les pins, ils étaient à un autre endroit.
Je suis assez d'accord. Oui, on peut être plusieurs forestiers, plusieurs...
Ouais, ouais.
C'est la biodiversité,
je pense. Pour revenir sur les enjeux, là, pour bien valider... Donc il y avait des enjeux relatifs aux risques naturels, donc la connaissance des risques naturels réels existant sur le territoire, parce que c'est vrai qu'on a une liste assez longue de risques naturels dont on sait qu'ils sont présents, mais on ne sait pas forcément exactement les localiser. Donc là peut-être...
Il y a des spécialistes à Géosciences, notamment à Sofia, qui ont un réseau qui soit au bas des GPS, il y a des trucs comme ça, c'est pas ça.
Oui, mais dans la définition des risques tels qu'on les recense dans ce qu'on appelle les PPR, hein, les plans de prévention des risques, il y a le risque inondation, bon, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Il y a les risques
sur l'Estéron, en 94, on disait ça aussi. Hein, le hameau où j'habite, on était 1,50 m sous l'eau, quoi. Bon,
Oui, mais c'était lié à des problèmes d'embâcle, notamment parce que il y a eu des problèmes d'entretien, ce qu'on appelle la rivière,
entretien des berges,
etc. Hein.
Entretien des berges.
Je pense que là, il y a du travail à faire dans ce. Madame parlait du fameux sage en question. Il pouvait effectivement prendre en compte cet entretien de la rivière. Qui a été dans l'Estéron un des facteurs du désordre. Bon, après, il y a des zones qui
sont basses. Après, sur le Loup, c'est pareil aussi.
Juste à la base de Roquestéron Grasse, c'est sûr que là, ça avait été disparu sous l'eau, l'assainissement qui avait été emporté, etc. Enfin bon, il faut aussi être raisonnable et pas aller construire ni aménager ce qu'on sait être le lit majeur de ces rivières. Il y a des moments où elle repart. Hein.
Il y a eu au Ribon aussi, hein. Il y a eu des catastrophes au Ribon aussi. Hein.
Oui, mais c'est plus dans le PNR. Hein.
Sur le second,
moi j'ai connu mal passé, hein, alors vous savez.
Il y a des glissements de terrain aussi dans les.
Alors, et voilà, le dernier risque, effectivement, c'est les risques liés au mouvement de terrain et au glissement de terrain et au chute de blocs, etc. Voilà. Ils sont plus évidents chez nous, par contre.
Risque de mouvement de terrain et de glissement.
Alors, dans les risques naturels, je reviens sur l'utopie de tout à l'heure, c'est-à-dire sur les changements climatiques. Est-ce que le changement climatique ne fait pas partie des enjeux des risques naturels et qui va éventuellement obliger l'homme à procéder, à aider la nature à réadapter les essences au changement climatique? Parce qu'on sait que si les prévisionnistes ne se sont pas trompés, les changements climatiques seront tellement brutaux que les espèces végétales n'auront pas le temps de s'adapter. Donc est-ce que ça ne fait pas partie des enjeux, à moins que quelqu'un ou un organisme étudie les espèces nouvelles éventuellement à implanter en masse si ces phénomènes se produisaient? On sait que le cèdre, enfin je ne sais pas s'il est adaptable à la région, le cèdre et le chêne vert s'adaptent facilement à la sécheresse. Donc est-ce que ça fait pas partie des
enjeux? Je pense que finalement c'est un enjeu transversal.
C'est un risque naturel qui arrivera, il n'arrivera pas.
C'est vrai que c'est aussi une réflexion qui a été menée à propos des risques d'incendie, où effectivement les résineux, c'est ce qu'il y a de pire quoi, en matière de risque d'incendie. Et le chêne vert, notamment, chêne liège, mais bon, on ne va pas faire du chêne liège partout, sont moins exposés. Alors, ça, je reviens sur l'idée que j'avais évoquée, qui sera donc enrichie aussi au niveau du conseil scientifique qui accompagne le PNR pour se pencher sur ces problématiques. Parce que nous, les élus qui vont s'occuper de la partie de gestion du syndicat mixte, puisque ça va fonctionner comme ça, hein, le syndicat mixte, c'est une structure qui va comporter un président, un bureau, puis des membres, etc., qui sont les élus et qui n'ont pas nécessairement la compétence, loin de là, pour ce genre de problématiques. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le conseil de développement qui fonctionnera à côté du bureau et des membres du syndicat mixte, il pourrait y avoir cette proposition de fait. Pourquoi pas? Je pense franchement que ça relève du conseil scientifique.
Juste une petite remarque. Il y a des végétaux, des insectes qui ont été introduits partout en France. Voilà. Par exemple, l'arbre du Japon qui est classé au niveau de la première espèce.
Sur les autres enjeux, la prévision des mesures préventives et de secours à mettre en place. Donc là, ça veut dire la sensibilisation au risque. Il y a quand même des enjeux assez importants en matière de risque sur le territoire. Donc, est-ce que le parc peut éventuellement faire un dépliant, déjà localiser les risques? Alors, je ne sais pas. Ça demandera un travail du conseil scientifique aussi, parce que c'est une thématique très spécifique et qui mobiliseront des compétences très pointues.
Pour
ne
pas inviter des gens, par exemple, dans le cadre de cette commission. Il y a des associations, des chercheurs qui ne demandent qu'à exposer leurs résultats.
Mais le conseil scientifique se mettra en place une fois que la charte sera validée par les instances nationales, la fédération, le comité national des paysages et le ministère de l'Environnement. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, le syndicat mixte de gestion, puisque aujourd'hui nous sommes qu'en syndicat mixte de préfiguration, le syndicat mixte de gestion étant mis en place, pourra effectivement demander l'installation d'un conseil scientifique. Bon, à ce moment-là, on intégrera tout ça.
Je pense que sur les mesures préventives, en fait, l'enjeu 1, qui est la connaissance des risques naturels, amènera peut-être le parc à intervenir sur les mesures préventives, mais c'est peut-être prématuré de les mettre là. Peut-être qu'il faut déjà dans un premier temps les recenser, les connaître.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne connaît pas les risques naturels, parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'études qui sont faites au niveau des communes, au niveau des syndicats qui existent sur le territoire, où ils ont fait des inventaires des risques et ils ont mis en place, je pense au CISA par exemple, pour la Sienne, ils sont en train de mettre en place un plan de prévention et de mesures à prendre pour la lutte contre les inondations en particulier.
D'accord.
Donc il y a déjà des choses qui existent, il faut pas qu'on les refasse.
Je suis un peu d'accord, les risques naturels, à mon avis, sont un petit peu mieux connus que les risques, si je puis dire, humains, non naturels. Des nuisances et des pollutions, où là, effectivement, peut-être on n'a pas une vue d'ensemble des risques de demain. Et les risques naturels,
non plus.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, pourquoi on se restreint aux risques naturels dans ce point 1.
Non, il y a industriel.
Il y a aussi des risques, comme l'intitulé, des nuisances et des pollutions, des risques, vraiment de tous les risques.
Je pense qu'il faut faire un autre enjeu sur les pollutions, parce que les pollutions nuisances, c'est...
D'accord, c'est dans la suite, j'arrive pas à lire...
Non, mais on ne l'a pas forcément encore inscrit, mais ça peut être un enjeu supplémentaire, peut être inscrit, mais je pense qu'il faut distinguer les risques.
Mais
c'est
les risques de pollution.
Ah ouais, on l'a, elle a été...
Aménagement,
pas forcément, parce qu'il
y avait les aménagements liés à l'industrie industrielle.
Oui, mais... Alors, l'industriel, parce que l'industriel, un exemple tout bête demain, à Roquestéron, il y a une usine pour faire du papier qui veut s'installer. Ça va apporter de l'emploi, tout le monde va être content de le voir. Ça va apporter une pollution énorme de l'Estéron. C'est purement hypothétique. Qu'est-ce que le PNR peut faire pour gérer ce genre de choses au niveau industriel?
Si c'est une installation classée, il aura un avis à donner.
Elle est classée. Donc on donne un avis, mais c'est un avis consultatif.
C'est un avis consultatif.
Ça veut dire que si c'est pas classé, on a le droit
de faire. Enfin, bon, rassurez-vous, il n'y aura pas de.
Non, non, non.
Il va y avoir une usine à jambon.
Non, non, c'était
purement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut qu'il fallait en faire un enjeu séparé. Séparé risque et séparé pollution. On peut inscrire connaissance sur les pollutions sur des pollutions.
Moi j'aimerais bien, hein, pour la filière bois qui
ça polluerait pas forcément un
ah bon
surtout là-dessus.
Ah bon
oui, il y a une loi. Vous allez voir la France, je sais que c'est la filière bois.
Bien marqué qu'effectivement ça sera des attributions de l'unité scientifique.
Je pense que c'est inscrire de manière transversale.
C'est inscrire vraiment qu'il faudra vraiment un observatoire, c'est-à-dire trouver quelques plans qui soient très sensibles à changement, regarder leur évolution, etc.
Pour les changements climatiques.
Climatique.
Il y a déjà. Déjà quelque chose qui existe là, c'est le comment ça s'appelle le CREA, je crois, des Alpes. C'est un observatoire justement qui étudie le changement climatique en étudiant la phénologie des plantes.
Justement, il y a plein de personnes ici qui ont plein d'informations, mais est-ce qu'on pourrait pas faire remonter toutes ces informations vers vous, par exemple, et puis parce que ça, effectivement, je connaissais pas.
Pour cette région, c'est Phénoclim, ça s'appelle.
Il est où?
C'est sur toutes les Alpes, mais.
Localisé.
Je sais pas, mais.
C'est vrai que ce serait. C'est le genre d'informations qu'il faut
discuter en tout génétique. Voilà, oui, mais il faut qu'on ait les éléments.
Et d'ailleurs, tout le monde peut participer à. À ce Phénoclim. Tout le monde peut participer.
Je sais pas,
internet.
Mais c'est à la région.